Bien-être spirituel aujourd'hui, une émission qui surgit un peu comme ça, Sainte Marguerite d'Youville. C'était sa fête il y a quelque temps, mais c'est l'anniversaire demain de son décès. Elle est décédée en effet le 23 décembre 1771, et c'est à mon avis la femme la plus remarquable avec la bienheureuse Marie de l'Incarnation, Sainte Marguerite d'Youville. En tous les cas, dans les premiers siècles de notre pays, c'est certainement la femme la plus forte, la plus remarquable, la plus extraordinaire que nous ayons eue. C'est un modèle encore pour aujourd'hui. Peut-être une femme qui s'est mariée à 18 ans, qui 10 ans plus tard était veuve, et qui était mère de 2 garçons, et par la suite fondatrice de cette très, très importante congrégation que sont les sœurs grises, les sœurs de la charité, des sœurs qui ont tant fait de bien malgré tout les remarques qu'ont pu faire certains journalistes en mal de dire toutes sortes de choses. J'ai sous la main d'ailleurs un article de Lisiane Gagnon paru le 19 avril 1997 et elle dit mes témoignages étaient tous intensément personnels et indépendants les uns des autres, et j'en parle simplement pour indiquer vers où penche cette portion significative de l'opinion publique que représente le lectorat d'un journal comme celui-ci. Elle dit qu'elle avait beaucoup de lettres qui l'appuyaient dans sa défense des sœurs grises, et elle dit, et pour dire aux sœurs, particulièrement aux sœurs grises, aux sœurs de la Providence, qu'il y a au Québec énormément de gens qui se souviennent et qui leur disent merci. C'est Lisiane Gagnon qui peut pas être taxée d'être particulièrement très, très catholique. Je ne crois pas, du moins, je ne veux pas l'insulter. C'est une bonne amie depuis longtemps. Je la connais bien, je l'apprécie pour ce qu'elle est, et quand elle dit des choses valables, je l'admire bien. Alors, il est donc question aujourd'hui de Marie-Marguerite Dufrost, ou Dufrault, comme on dit, de La Jemeraie. Elle est née sous ce nom. Le 15 octobre, on l'a fête de Sainte-Thérèse d'Avila, 1701 à Varennes. C'est donc une sainte vraiment québécoise. Elle est d'ici, totalement. Elle porte en elle le meilleur sang, si on peut dire, de la Nouvelle-France. Elle était d'une famille tout à fait respectable. Elle était alliée à des gens qui ont fait notre histoire. Son père, Christophe Dufrost, gentilhomme breton, était passé au Canada en 1687, puis il a glorieusement servi, si on peut dire, au temps de Nonville et de Frontenac contre les Iroquois. Et sa mère s'appelait Marie-Renée de Varennes. Elle était la fille de René Gauthier de Varennes, un officier du régiment de Carignan dans lequel était mon ancêtre. Un pauvre petit soldat qui ne savait ni lire ni écrire, mon ancêtre. J'étais loin d'être un officier ni un seigneur. Alors, c'est la fille donc de René Gauthier de Varennes, qui était officier de Carignan, puis seigneur de Varennes, chevalier de Saint-Louis, et qui est mort gouverneur de Trois-Rivières. Vous voyez que c'était une famille tout à fait respectable au début de notre colonisme, au début de notre pays. Et sa mère est donc sœur de Pierre Gauthier de la Vérendrye, le célèbre explorateur. Et de plus, elle est par sa mère, petite-fille du patriarche, le fameux Pierre Boucher de Boucherville. C'est tout un parentage hein, qui allie les Varennes aux Lavaltrie, aux Tilly, les Noël de Tilly et les autres, aux Debleurie, qui ont donné leur nom, la rue Debleurie, aux Hertel de Rouville. Presque tout le clinquant, comme dit le chanoine Groux dans un texte donc qui m'inspire, presque tout le clinquant de la noblesse coloniale. La petite Marie-Marguerite n'a que 7 ans lorsqu'elle perd son père, ce qui lui vaut d'entrer toute jeune à l'école de ce qu'on pourrait appeler l'école de la misère. Ils seront très pauvres. Parce que Christophe Dufrault de La Jemeraie, simple capitaine de troupes au Canada, et depuis 1705 seulement, n'a jamais eu pour faire vivre sa famille que, c'est triste à dire, mais une maigre solde d'officier. C'est tout ce qu'il avait. C'est-à-dire de quoi tout juste ne pas mourir de faim. Il y a sa mort, sa veuve, ses 6 enfants, dont Sainte Marguerite d'Youville, sont très pauvres. 6 ans passeront, 6 ans d'attente pénible, avant qu'on obtienne une petite somme risible de 50 écus, une pension alors payée par le grand roi de France aux veuves d'officiers. La petite Marguerite va pouvoir faire 2 ans au couvent chez les Ursulines de Québec, mais grâce à des personnes charitables. Et à 12 ans, elle rentre au foyer pour aider sa mère. On la voit dans le rôle d'une petite maman, là, auprès de ses petits frères et sœurs. Et c'est là, sans doute, qu'elle acquiert, on peut dire, ses vertus d'éducatrice. Par quoi, plus tard, elle va faire de ses 2 fils, savez-vous, 2 prêtres. 2 très bons prêtres, d'ailleurs. Elle grandit, elle a 18 ans, l'âge où les jeunes hommes, surtout les jeunes filles, songent au mariage. Alors, la mère de Marguerite se charge de plus ou moins saccager le rêve de son aîné. Elle-même est mariée en seconde noce à un individu assez équivoque. Elle n'est pas très heureuse. Elle est déconsidérée d'ailleurs dans son milieu social. Est-ce que Mademoiselle Marguerite peut encore espérer un beau mariage avec une mère qui vit dans des conditions difficiles? Elle n'est pas mondaine, Marguerite. Mais elle est de son âge. C'est une jeune fille, une vraie jeune fille. Elle aime le monde. Et puisqu'elle est femme, ben, elle se refuse pas, dans sa façon de se vêtir, un petit brin de coquetterie. Juste assez pour se faire aimer. On nous l'a décrit d'ailleurs de corps assez bien fait, même très bien fait. Et de grande taille, gracieuse, elle est brune claire, de très régulier. On rapporte qu'elle avait l'œil vif, l'œil intelligent. En somme, on la considérait comme l'une des plus belles filles de son temps. Avec ce grand air que ces gens d'ancien régime portent si naturellement, un air pas snob ni prétentieux, mais un air d'élégance, de distinction. Presque tout ce qu'il faut pour être recherché et faire un bon choix. Pourtant, Marguerite Dufraud de la Jemeraye va choisir ce François Diouville, beau cavalier, dit l'histoire. Mais quand on regarde son portrait au château de Ramsay, beau, bon d'accord, mais avec un petit air frondeur, hein? Et son père, au surplus, qui s'appelle Pierre Hugh de la Découverte, a d'abord été voyageur et trafiquant. Oui, avec Cavalier de la Salle, un peu suspect ce Cavalier de la Salle. Puis le fils François, lui, le mari de Marguerite Duville, c'est connu, a été trafiquant auprès de son père. Alors mystère à coup sûr, hein, que ses amours, les amours étranges d'une femme aussi sage que Marguerite... Tous ont dit qu'elle avait un solide jugement, et pourtant le dénouement de ces sortes d'unions n'offre rien d'imprévu, hein, quand on épouse soit une fille un peu fofolle, soit un garçon qui a un passé plus difficile. C'est pas toujours aisé. Et le beau cavalier Diou, François Diou, trop fringant pour n'être pas plutôt volage et dissipateur, ben il dévore en quelques années son bien, en autant qu'il en possédait. Et pendant qu'il y est, mais ce trafiquant de fourrure et de contrebande, et par surcroît trafiquant d'alcool, comme cela va de soi, mais il dévore rageusement sa santé, puis le peu d'argent qu'avait sa femme, puis le bonheur de sa femme même. Il meurt en 1730 à 28 ans, après 8 années de mariage. 8 années seulement, et non pas 10, pardon. Il lègue à sa veuve des dettes. Puis il la laisse à 28 ans, elle-même, mère de 2 enfants bas âge, comme je vous ai dit, puis enceinte d'un 3e, mais déjà du vivant de son mari. Mais cette jeune femme a dû gagner par le travail sa vie, celle de ses enfants, sans assurer toujours le net nécessaire. Non, ça marche pas son affaire. Et encore une fois, mais c'est l'école, la misère, et ici pourtant commence la vraie vie, la grande vie de Marguerite Dufraud de la Jemeraye. Vie déjà marquée du signe de la croix. C'est à cette heure que... 2 hommes de Dieu jettent les yeux sur cette jeune veuve. Qui sont-ils? Mais dans le Montréal d'alors, il y a un hôpital qui menace décadence. Il avait été fondé en 1692, on l'appelle populairement l'hôpital Charon, du nom de son fondateur, François Charon de la Barre. Il y a aussi parmi les associés du fondateur, 2 frères de la recluse Jeanne Lebert, dont je vous ai déjà parlé. Avec Jean Fredin, tous les 4, c'était des hommes de piété autant que de fortune, mais à la pointe de la Calière, où ils vont élever le plus large édifice religieux de Ville-Marie, la pointe à Calière que vous connaissez dans le Vieux-Montréal. Et qu'a-t-il manqué à ces quatre hommes, en même temps qu'un hôpital, s'y fondait un ordre, hein, les frères hospitaliers de la Croix et de Saint-Joseph. Mais que leur a-t-il manqué pour réussir? Un fondateur, peut-être moins entreprenant. Et à ce fondateur, sans doute, il aurait fallu des associés plus persévérants. Puis une aide du clergé, hein, pour la formation des frères. Peut-être aussi une opposition moins catégorique des autorités françaises à Paris, à Versailles, une opposition s'opposait eux autres à tout établissement d'ordre religieux nouveau. Alors les malheurs vont s'enchaîner, le choix de sujets trop improvisés, ils ont choisi des gars qui avaient peut-être pas tellement d'allure, une conception un peu indécise, il y a eu la mort inopinée du fondateur en 1919, les finances branlantes, etc. Alors, il y a eu des saisies judiciaires, des procès. Ça menait l'hôpital vers sa fin. En 1737, une tentative de passer l'œuvre aux frères des écoles chrétiennes a échoué. En 1744, les derniers survivants des frères hospitaliers, quatre vieillards décrépits, demandent à Monseigneur de Pontbriand de les décharger de leur hôpital. Alors, c'est comme ça qu'avorte la fondation religieuse de ces hommes, l'une des rares au Canada, alors que tant de femmes ont trouvé le tour, elles, de fonder puis de réussir. Et à Montréal, donc, une œuvre d'homme est à repêcher. Et là, bien, le directeur de la jeune veuve d'Youville, M. de Lescoy, lui dit au lendemain de son deuil, quand elle a perdu son mari, « Consolez-vous, ma fille, Dieu vous destine à une grande œuvre. Et vous relèverez une maison de son déclin. Et ce sera M. Normand qui va hériter de la direction spirituelle, un sulpicien lui aussi, après la mort de M. de Lescoy. Il prend sur lui de donner suite à la prophétie de son confrère, et le sulpicien a pu observer la piété de Marguerite Youville. Alors, elle est détachée du monde, même avant son deuil. Il a vu l'épouse pleurer, cette pauvre Marguerite. Elle avait des larmes sincères. Elle a pleuré quand même ce mari qui le méritait si peu, parce qu'elle l'aimait quand même. Il a vu cette mère de famille qui se dépense pour l'éducation de ses deux fils qui sont de futurs prêtres. Il a vu visiter les pauvres, surtout les malades, et se rendre à l'hôpital général pour y raccommoder les vieux vêtements de quelques indigents délaissés et crassus. Puis il a constaté aussi sans doute son ingéniosité, son génie pratique. C'était une femme extraordinaire, son merveilleux esprit d'initiative, exceptionnel. Et il s'est dit, celle-là, c'est la femme providentielle, c'est elle qui va relever l'hôpital, c'est Dieu sans doute qui nous l'envoie. Et bien pénétré de son double plan, M. Normand se met aussitôt à l'œuvre, et la jeune Mme Youville va s'imposer un commencement de noviciat approprié. Elle va prendre chez elle quelques pauvres, puis l'abbé lui recrute une compagne. Bientôt, à ces deux autres jeunes personnes vont se joindre, et alors on loue une maison, on s'y installe avec cinq pauvres, qui passeront bientôt à 10, et voilà le noyau formé de la communauté des Serres Grises à son berceau, et Dieu est là. Oui, Benedictus Dominus, que le Seigneur soit béni, hein. Il a béni Sainte Marguerite Youville, parce que sa petite communauté a à peine commencé, que déjà, toutes sortes d'épreuves surgissent. Ces femmes-là, à l'époque et encore aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent ça comme des bénédictions de Dieu, les épreuves. Ça peut l'être, si on passe à travers avec beaucoup d'amour, et beaucoup de confiance, et beaucoup d'espérance. On voit s'agiter des personnages très différents. C'est une opposition contre elle violente, qui part de haut. Ça va tourner même au soulèvement populaire. On s'attaque tout d'abord, oh, non pas aux jésuites pour cette fois, mais aux sulpiciens. Comment ça? On s'imagine que les sulpiciens seraient en train de machiner l'étranglement, la mort, ni plus ni moins, d'une institution d'utilité publique, l'hôpital des Frères Charron, là. Refuge des pauvres et foyer de maîtres d'école, l'hôpital général. Or, le motif de cette machination des sulpiciens, l'hôpital fermé, puis la congrégation des frères hospitaliers dissoute, eh bien, les sulpiciens, qui seraient des êtres terribles, par un contrat passé jadis, récupérerait les terrains et les bâtiments, et de là, de la part de nos messieurs de Saint-Sulpice, l'interdiction obstinée qu'ils ont faite aux frères de se recruter de nouveau. Alors que ça vient de Versailles. De là aussi la complicité de l'évêque Mgr Dosquet, lui-même d'ailleurs un sulpicien, et c'est ce que disent les mauvaises langues à Montréal. Alors, sous ces préoccupations apparemment bonnes, est-ce qu'il s'en cache pas d'autres moins élevées, par exemple l'inquiétude de créanciers menacés de la disparition de leurs débiteurs? Et d'ailleurs, et après tout, se dit-on, pourquoi tuer une communauté existante, encore capable d'une transfusion de sang avec des jeunes vocations, au profit d'une autre avec des femmes encore à naître? Pourquoi cette dérogation flagrante aux intentions des fondateurs mêmes de Sa Majesté le Roi? Pourquoi favoriser Madame Diouville? Ben, ce sont des motifs qu'officiers, marchands, habitants de la ville répandent solennellement en novembre 1638 dans une pétition, vous savez, qu'ils adressent à nul autre que Monseigneur le Comte de Maurepas, secrétaire d'État. Qui signe? Des grands noms. Bois-Berthelot, Debeaucourt, gouverneur de Montréal, puis après celui-là, les grandes vedettes du monde militaire, de la justice et du commerce. Il y a même le marguis en charge de Notre-Dame, un Lebert de Senneville. Il y a des Gamelins, un Maugras, qui sont des proches parents de Madame Diouville et qui signent, imaginez. Et pourquoi et comment ces derniers sont-ils là? C'est que nous voici bien au nœud tragique du drame qui se prépare. Au profit de qui opérerait la machination sulpicienne? Ce serait au profit de cette femme, qui est complice et marionnette des messieurs, cette femme, Sainte Marguerite Diouville, imaginez. Et le nom de cette femme, qu'est-ce qu'il évoque, Diouville, hein? Tout un monde de colère et de ressentiment encore vif, hein? Tout un passé de rivalité mercantile. Il y a eu des pires passions dans tout ça. On se souvient des exploits de ces Youville, père et fils, son mari et son beau-père, qui, embusqués à l'île aux Tourtes, ont pendant des années capté au passage les flottilles de castors. Ils ont même ravi aux marchands équipeurs de Montréal une part importante de leur commerce. C'est eux qui les ont empêchés de recouvrer leurs prêts aux voyageurs, aux sauvages. C'est eux qui ont conduit quelques-uns de ces commerçants au bord de la ruine. Diminution de castors qui, au surplus, affecté toute la population de l'île de Montréal. Ce sont des exploits de mercantis et de cupides sans scrupules, dit-on, qui, pour extorquer la fourrure aux caravanes de l'Ouest, ont illustré leur île et le bout de l'île de Montréal de toutes sortes de scandaleuses beuveries puis de crimes révoltants. Et la population écoute tout ça d'une oreille réceptive, puis ils en ajoutent même. Dans le voisinage de la maison Le Verrier, où est installée Mère Diouville, coin des rues Notre-Dame et Saint-Pierre, on n'a pas vu sans déplaisir, donc, s'installer cette petite communauté suspecte, et qu'a pour supérieure Marguerite Diouville. Tout de suite, quelque chose de trouble se met à couver sous la cendre. Et l'alerte est donnée. Alors son directeur spirituel, l'abbé Normand, a-t-il eu quelques soupçons? Le jour où il introduit ses dirigés dans leur première demeure, il est obligé de se défendre. Puis, il est obligé de faire une pressante exhortation sur le rôle de la croix dans la fondation des œuvres de Dieu. Il a dû leur rappeler ça. Hein. Il leur a même annoncé la persécution, c'est une prédiction opportune, et seul le surlendemain, un samedi, pour la première fois, ben, la petite communauté se hasarde à sortir. Qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est épouvantable quand on lit ça. Hein. C'est le jour de la Toussaint, imaginez, le 1er novembre, une grande fête de tous les saints. Et nos ancêtres à Montréal étaient loin de l'être. Elle est craintive, Sainte Marguerite Diouville. Elle se met en route vers l'église Notre-Dame, et aussitôt, comme sur un signal donné, les portes des voisins s'ouvrent et une foule se jette dans la rue. Croyez-le pas, c'est historique, et on vocifère, on conspire Sainte Marguerite Diouville et ses compagnes. On les poursuit à coups de pierre. Les jours suivants, ce sont les mêmes scènes, les mêmes tapages, et tout cela sous l'œil des autorités. Et dans la famille de la fondatrice, c'est à qui se désassocierait de son entreprise, évidemment. Puis les Récollets qui habitent tout proche, ils entrent eux-mêmes dans la cabale, ce sont des franciscains. Un jour que Madame Diouville et ses compagnes se présentent à la communion, les bons pères, les Récollets, la leur refusent publiquement. Imaginez l'humiliation. Comme si elles étaient des pécheresses scandaleuses. est toujours fertile en inventions et en ragots, mais la calomnie s'en donne à cœur joie. Alors, leur cachette de la maison Le Verrier, que font là la mère Diouville et ses comparses? Elles tiennent boutique clandestine, dit-on, boutique secrète et infâme. Elles y attireraient les sauvages, elles leur vendraient de l'eau de vie, dit l'autre. Que de ragots, hein? Et non seulement elles vendraient de l'alcool, mais elles en boivent, affirme une troisième. Et regardez-les aller tituber dans la rue, ça, des religieux, jamais de la vie. Ce sont des ivrognesses, des prostituées, le mot est prononcé, des sœurs grises, quoi, oui, des sœurs grises, grisées d'alcool, pourtant elles étaient habillées de noir. Parti de ce train, où est-ce que les langues sales, comme on dit, puis les cancans vont s'arrêter? Car enfin, cet alcool de trafic, où le prennent-elles, ces contrebandières, qui le leur fournit? Pas d'autre que les protecteurs de ces filles, ce sont les messieurs de Saint-Sulpice, alors on pointe le séminaire. Caprice, humeur sans gens des foules. Moins de 60 ans après la mort de Jeanne Mance, où on aurait pensé que cette population était profondément chrétienne, bien des scènes aussi discrécieuses qui surviennent dans cette ancienne Ville-Marie. Puis doit-on au fils de M. Ollier, Jean-Jacques Ollier, ce saint prêtre fondateur des Sulpiciens dont je vous ai parlé le 2 avril dernier, 1997. Et Dieu est-il content de ses novices, mais leur noviciat touche à sa fin, mais pas encore. Il y a d'autres épreuves plus intimes, plus cruciales, qui s'abattent sur la petite communauté. Alors, il y en a une qui meurt. En 1741, elle est réduite, la communauté, à 3 membres. Et voilà, M. Normand, lui, le directeur spirituel, est très malade. Mme Diouville a mal aux genoux. Elle a cloué sur une chaise. C'est pas encore assez, la fondatrice, à peine guérie dans la nuit du 31 janvier 1745, mais là, un incendie, la chasse de sa maison. Elle, ses filles, ses pauvres aussi. Il jette tout ce monde à demi-vêtu dans la neige. Et le peuple montréalais a couru au spectacle, manifeste sa sympathie à sa façon. On crie « juste châtiment du ciel », comme si Dieu pouvait brûler la maison d'une sainte. Et l'on se montre la flamme violette. Oui, une petite flamme violette, puis on dit « voyez, c'est la flambée de l'alcool destinée aux sauvages ». Un négociant offre aux incendiés une maison à lui. Le gouverneur Bois-Berthelot de Beaucourt, toujours un peu désagréable, ou si vous voulez, toujours aussi sympathique. Il ordonne aussitôt aux incendiés d'évacuer le refuge sous peine d'en être chassés par ses gardes. Mais heureusement, une dame charitable, Madame Lacorne, met sa maison à la disposition des expulsés, puis elles vont s'y cacher. Et enfin, en 1747, Marguerite Diouville voit poindre une lueur d'espoir, un miracle de la Providence. Devant la décomposition financière et morale des frères hospitaliers, les autorités coloniales, d'accord avec l'évêque, prennent une décision inattendue, presque incroyable, confient provisoirement l'administration de l'hôpital à Madame Diouville, hélas provisoire, qui va risquer d'en rester au provisoire, par la faute d'abord des autorités à Paris ou à Versailles, qui répugnent toujours à favoriser la naissance d'une communauté nouvelle dans la colonie, où, croit-on, il n'y en a que trop. Et alors, le mieux, le plus opportun, est-ce que ce serait pas plutôt de supprimer en bonne et due forme l'hôpital de Montréal, puis de le fusionner avec l'hôpital général de Québec? Mais les Montréalais sont pas d'accord. Et vous verrez tout à l'heure que les querelles entre les Montréalais et les Québécois, ça date pas d'aujourd'hui. Sainte Marguerite Diouville, quelle femme forte, quelle femme audacieuse, qui est passée à travers mille misères et qui n'a jamais cessé de se confier à Dieu et de croire vraiment à sa mission d'aider les pauvres, les plus pauvres, les plus délaissés. C'est une femme qui jamais ne désespère, qui est toujours debout. Et à cette époque, alors que les Montréalais s'opposent à des fusions de l'hôpital général de Montréal avec l'Hôtel-Dieu de Québec, s'oppose aussi à toutes sortes d'autres choses. Vous savez qu'au début, les Québécois n'aimaient pas tellement l'établissement de Montréal. Ils auraient voulu que Montréal aille s'établir sur l'île d'Orléans. Oui, et on dit même que Monseigneur de Saint-Vallier aurait rêvé de fusionner la congrégation Notre-Dame de Sainte-Marguerite-Bourgeois avec les Ursulines. C'est donc pas surprenant si Monseigneur de Pontbriand a songé à fusionner l'hôpital général de Montréal et l'hôpital général de Québec. Hein? Quoi qu'il en soit, le beau matin du 23 novembre 1651, Madame Diouville, qui revient du marché, entend au milieu d'une sonnerie de tambour un crieur public qui prononce son nom. Et qu'est-ce qu'elle apprend? Que par ordonnance de Messieurs Pontbriand, La Jonquière et Bigot, le traité provisoire conclu en 1747 avec la Dame Diouville est proprement abrogé et consommé tout de bon la fusion de l'hôpital général de Montréal avec l'hôpital général de Québec. Et en d'autres termes, la Dame Diouville n'a qu'à quitter la place à la pointe à Calière et au plus tôt. Mais c'est un véritable martyr. Hein? Par ordre de M. Bigot, appuyé hélas par l'évêque, Pontbriand, l'expulsé qu'est Sainte-Marguerite de Diouville se verra même refuser le remboursement des 10 000 livres qu'elle a dépensées pour réparation urgente dans l'hôpital en ruine. 10 000 livres qu'elle a empruntées. C'est énorme! Au surplus, M. Bigot va la blâmer d'avoir accru le nombre des pauvres hospitalisés puis d'avoir accueilli, pour les soigner moralement, une quinzaine de femmes de mauvaise vie, imaginez. Et encore plus amèrement, ce galant homme, comme dit le vieux texte, va reprocher à la dame, Marguerite Diouville, d'avoir coupé les cheveux de ses belles et de les avoir ainsi défigurées. Pour n'être pas en reste de ses amabilités, on intime à Sainte-Marguerite Diouville, avant que de livrer ses terres à la pointe Saint-Charles aux religieuses de Québec, d'avoir à les faire labourer et ensemencer, et ainsi ordonner les choses se passent, imaginez. Sans tarder, les religieuses de Québec viennent et prennent possession des terres de l'hôpital de Montréal, et commencent même le transport du mobilier dans leur maison de la capitale à Québec. Tout allait bien sans la Providence, oui, sans Dieu, qui n'aime pas toujours les fusions. Montréal non plus. Ne les a jamais aimés, plus qu'il ne faut. Ça dure encore. Et comme s'il avait fallu démontrer, une fois de plus, l'inconstance des foules, et qu'il n'y a pas que les civilisations qui sont mortelles, mais les cabales aussi, ce petit peuple qui hier jetait des pierres aux pauvres sœurs et faisait d'elles pourtant alors habillées de noir des sœurs grises, je vous l'ai dit, ce même peuple étrange devient tout à coup feu et flamme pour les filles de Madame Diouville. Et depuis 4 ans, on a pu les observer à l'hôpital, on les a vues si paisibles, si bonnes, si miséricordieuses. À toutes les misères humaines, comme elles font à l'accueil Bonneau, comme elles font à la Maison Grise, comme elles font partout. Il y a eu beau se mettre au guet de l'hôpital, le peuple de Montréal n'a pas vu un seul Indien qui soit sorti ivre de la maison des Sœurs Grises. Donc, il n'y a plus de doute possible, les bonnes Sœurs Grises sont toutes de bonnes dégrisées, quoi. Puis ces Montréalais s'inquiètent de leurs pauvres, et très fiers, ne se soucient plus d'en faire cadeau à Québec, loin de là. Pendant ce temps, Sainte-Marguerite Diouville, aidée du sentiment populaire et des Sulpiciens, défend son œuvre avec éloquence. Elle a du caractère. Elle plaide auprès des autorités coloniales, auprès du Bigot, auprès de l'évêque. En France, le supérieur de Saint-Sulpice porte toute l'affaire à la cour. Mais en cette controverse, c'est une femme qui a subitement l'éclair de génie. L'État français, qui ne paie pas ou qui paie mal ses dettes, ne prise rien tant que ceux-là de ses sujets qui paient les siennes et qui paient celles des autres, alors que l'État se trouve impliqué. Et ingénieusement, Madame Diouville, à la seule condition qu'on lui confie la direction de leur établissement, elle s'offre à payer jusqu'au dernier sou des dettes des frères hospitaliers. Quelle administratrice extraordinaire, vous verrez. C'est une femme de foi, de prière, de confiance et qui a les pieds sur la terre. Alors, elle fait un coup de barre et le vent tourne. En 3 temps, 3 mouvements, Sa Majesté le Roi annule l'ordonnance des administrateurs coloniaux et aux anciens frères hospitaliers, elle substitue Madame Diouville, Sainte-Marguerite. Enfin, et par surcroît de complaisance, elle daigne même ériger la dame et ses compagnes en communauté. Ça y est. Et M. Bigot, un peu étourdi de ce revirement, n'a plus qu'à contraindre les religieuses de Québec de se démettre des biens fondés de l'hôpital de Montréal puis à rentrer chez elles. Et certains meubles, imaginés, emballés trop tôt, n'ont qu'à refaire en sens inverse le voyage entre Québec et Montréal. Et cela se passait en 1753, à la veille de la guerre de la conquête. C'est en 1637 qu'avec trois compagnes, la jeune veuve Diouville commençait à s'entraîner au service des pauvres. Il lui aurait fait donc fallu 16 ans de travaux, de luttes tenaces, d'épreuves de toutes sortes, des grosses épreuves, comme vous avez vu, pour obtenir son hôpital. Et pendant tout ce temps, elle a attendu son œuvre. Maintenant, son œuvre l'attend. Elle a de l'entrain. Elle a une chaleur d'âme. C'est fantastique. Elle s'y donne de tout son être. Toutes ces épreuves effroyables ont pu meurtrir son cœur. Elle a un cœur de femme qui se meurtrit. C'est sensible, un cœur de femme. Mais ça n'a rien affaibli de son admirable force morale. Car une femme, ça a souvent plus de force morale qu'un homme. Et bien au contraire, toutes les puissances d'action refoulées, comprimées en elle pendant la longue attente, ça va se donner tout à coup libre cours. Et en 1747, elle a trouvé l'institution dans un effroyable délabrement. C'est un édifice aux murs lézardés, les carreaux en partie crevés, brisés probablement par les cailloux des enfants. Pour tout dire, une maison à réparer de la cave au comble, et là-dedans deux vieillards au service de quatre pauvres, des deux vieux frères. Pour tout revenu, 700 livres de la monnaie du pays sur l'hôtel de ville de Paris. C'est une rente déjà saisie par les créanciers des frères, les frères Charon. Pour seul bien fond, la ferme de la pointe Saint-Charles, à peine défrichée, sans bestiaux, avec des bâtiments en dépérissement, une ferme qui rapporte à environ 450 minots de blé, quand pour nourrir les pauvres dont le nombre va croissant, il en faudrait plus de 4 fois plus. Aider du public définitivement conquis, aider toujours des sulpiciens qui quêtent même pour elle dans les paroisses. Eh bien, la sœur économe porte en 3 ans ses recettes à 20 000 livres, sans empêcher toutefois que la dépense grandissante n'excède encore d'un tiers les revenus et toujours dans plus ou moins en faillite. Mais là, on travaille. On confectionne des habillements pour les sauvages et les sauvagesses, car on s'occupe beaucoup des Amérindiens. On confectionne des ornements pour les chefs des tribus, même. On travaille pour les églises, on fabrique des hosties, des bougies, on se livre même à diverses branches de commerce, on répare, on remet en opération la brasserie des frères. Oui, on fait de la bière. On met en torquette du tabac en feuilles. Oui, le tabac n'était pas considéré comme un péché dans ce temps-là comme ça l'est aujourd'hui. Et puis on fabrique et on vend de la chaux, de la pierre à bâtir, du sable, etc., etc. C'est sur la ferme de la pointe Saint-Charles, remise à point, on package des animaux. L'hôpital a même son bateau qui organise des voyages, des excursions pour le public. Au surplus, la fondatrice Sainte-Marguerite Diouville a mis au travail tous les pauvres de l'hôpital en état de rendre service. Elle-même donne l'exemple, elle fabrique de la chandelle. Elle exécute les ouvrages les plus rebutants. Elle et ses sœurs, elles aident, oui, en qualité de manœuvre, à la construction de plusieurs bâtiments. Et en particulier, imaginez du mur d'enceinte de 3600 pieds qui enserre l'hôpital. Quelle femme! Et avec toutes ces aumônes, industrie et travaux, cette sainte, qui est aussi une habile femme d'affaires, au dernier jour du régime français, elle finit par porter ses recettes à près de 60 000 livres. Et bien entendu, elle paie les dettes des frères et fait même des épargnes que pour assurer la sécurité de ses pauvres, elle convertit en rente sur la France. C'est tellement extraordinaire. Et on peut se demander pourquoi on ne lui a pas confié les finances de la colonie au lieu en place de M. Bigot, qui était loin d'être aussi compétent. Mais une femme qui fonde une communauté religieuse qui se serait occupée des finances de la colonie, non, pas possible. Mais ça n'aurait peut-être pas été une mauvaise chose. Et la moindre merveille n'est pas qu'en dépit de tout, l'hôpital n'a pas cessé de grandir. La fondatrice jette les fondements de toutes sortes d'autres constructions, bâtiments pour les serviteurs, boulangeries, prolongement de l'hôpital pour loger plus de pauvres, déplacement et achèvement de l'église. Et cet hôpital a grandi, devient véritablement hôpital général. Il s'ouvre à toutes les misères, à tous les pauvres, à tous ceux que refusent l'hôtel Dieu, c'est-à-dire les épileptiques, les lépreux, les femmes picotées, les femmes de mauvaise vie, les prisonniers anglais blessés ou malades. On est en pleine guerre, oubliez pas. Une guerre de conquête. Puis les prisonniers qu'il faut parfois dérober aux atrocités des Amérindiens qui ont de la difficulté à se contenir. Et n'allons pas oublier une des entreprises les plus méritantes. La Fondation, en 1761, en pleine guerre, hein, nous avons perdu notre pays en 1763. Eh bien, la Fondation, en 1761, dès la première année du régime britannique, d'un hospice et d'une crèche pour les enfants trouvés. C'est la première en Amérique. La sœur Diouville va se porter au secours de ces petits infortunés. 15 à 20 chaque année. 328 en tout pendant les 11 dernières années de sa vie. 328 petits. Entreprise qui, en ce temps-là, consiste non seulement à recueillir ces petits malheureux, mais à leur trouver, à leur payer pour un temps une nourrice, puisque ça n'existe pas, le lait en bouteille, dans ce temps-là. Il faut des nourrices. C'est un dévouement continué pendant 200 ans qui mériterait aux chères sœurs grises autre chose, il me semble, que les attaques inconsidérées de tous ces journalistes superficiels qui me brisent le cœur. Mais surtout que nous voilà loin. Loin des seuls 12 pauvres dont les lettres patentes du roi imposaient l'entretien à Mme Diouville. Elle est allée bien plus loin. Et cependant, pour la fondatrice, le cycle des épreuves n'est pas fini. Il semble que Dieu veuille la maintenir dans l'héroïsme des âmes privilégiées qui existent au surplus. Pourrait bien que l'œuvre ne se puisse établir et vivre sans ces femmes qui se brûlent, qui sont dévorées par les sacrifices. Les sacrifices féconds. Il y a deux catastrophes au moins qui vont fondre sur Mère Diouville. La première, en 1760, c'est la guerre de la conquête, les Anglais qui arrivent. Disette. Vous savez, ça n'a pas été une conquête avec des tasses de thé en porcelaine, ça. Il y a eu la disette. La famine affreuse. La hausse effroyable de toutes choses en ce Montréal encombré de réfugiés. L'angoisse quand on cède son pays à des ennemis. Les craintes pour la religion, ce sont des protestants qui arrivent. C'est la survivance aussi des communautés, on se demande. C'est la tentation d'une grande partie de la population, de l'exode en France, qui s'infiltre partout, même chez les sœurs de l'Hôtel-Dieu. On pense à partir. Moi, j'ai une partie de ma famille qui est retournée en France, des Bourgogne-Champagne. J'en ai retrouvé là-bas. Puis le départ des protecteurs, ça c'est grave, les amis, les parents, la baisse des recettes, qui en dépit de l'afflux de misère à soulager, tombe de 60 000 livres à 9 000 livres, c'est tout ce qui leur reste. Puis pour couronner le tout, la dévaluation de la monnaie. Il y a une créance de 100 000 francs de l'hôpital sur le gouvernement français. C'est terrible. La mère Diouville n'a pas le tempérament de se taire, elle écrit. En voilà bien à la fois, perdre son roi, perdre sa patrie, perdre son bien. Non, elle n'a pas vu celle-là. Dans la conquête anglaise, un bienfait providentiel, c'était pas son genre. Elle appartenait à une grande famille d'ici. Et c'est en ces années de misère, du reste, qu'une autre catastrophe vient doubler la première. C'est cet incendie du 18 mai 1765 qui, après avoir dévoré plus de 100 maisons du petit Montréal d'alors, court jusqu'à la pointe à Calière et s'attaque furieusement à l'hôpital général anéanti et jette dans la rue sans abri 118 personnes. On pourrait croire que tout est fini. Non, non, tout n'est pas fini. Elle a une confiance totale en Dieu le Père. Alors, je viens de vous dire que le 18 mai 1765, l'incendie rase son hôpital. Mais quel courage! C'est une femme aux muscles d'acier, je dirais. Elle a l'âme bien trempée et moins d'un mois après l'incendie, Sainte-Marguerite Diouville se met à rebâtir son hôpital. Et 4 ans plus tard, en 1769, elle a terminé. C'est une incomparable payeuse de dettes. Elle a même remboursé emprunt et achat, sauf une minime somme de 7 000 livres. Entre-temps, parce qu'une seule entreprise ne lui suffit plus jamais, et toujours par souci de ses pauvres, pour leur ménager des bienfonds, elle a acquis la seigneurie de Châteauguay avec les îles dépendantes. Elle y a construit un moulin à eau, et pour actionner le moulin, elle a fait creuser, imaginez, dans les rapides un canal avec digue de 280 pieds. Quelle femme! Y en a-t-il des femmes comme ça encore aujourd'hui? Magnifique exemple d'activité et de courage! À une heure tragique de l'histoire de notre pays, alors que tant d'autres perdaient cœur et foi et s'abandonnaient à trop de capitulation, voilà qu'une fondatrice québécoise, canadienne, démontrait par ses œuvres les inépuisables réserves de l'énergie chrétienne et française dans notre pays. Et le 9 décembre 1771, Murdieuville est frappé de paralysie. Le 13 du même mois, une seconde attaque. Elle expire le 23 décembre suivant, à 70 ans. Le soir de sa mort, un monsieur Delisle se promène au bord du fleuve. Et plusieurs citoyens aussi du faubourg Saint-Laurent aperçoivent mystérieusement dans le ciel au-dessus de l'hôpital général une croix de feu. C'est historique, ça. Une héroïne a vraiment accompli le dépassement humain. Tout maintenant peut germer sur cette tombe. Où est cette tombe? Vous aimeriez vénérer la tombe de cette femme fantastique? Elle est au coin de Guy et du boulevard René Lévesque. Vous sortez au métro Guy, sortie Guy. Vous descendez la rue Guy jusqu'au coin de René Lévesque, à l'entrée, là. Et vous pourrez aller vous agenouiller sur la tombe, près de la tombe, de cette femme extraordinaire. Et réfléchissez à la pauvreté de nos âmes d'aujourd'hui. La pauvreté de notre Église qui manque de force et de courage. Mon Dieu. Comment résumer cette vie? Dieu l'avait gracié de remarquables qualités naturelles. Tous ses contemporains, tous ses historiens s'accordent à louer son impeccable bon sens, sa solidité de jugement, son indéfectible énergie, sa merveilleuse débrouillardise. Elle avait une tête. Elle avait un cerveau solide, accompagné d'un cœur de femme. Disons tout simplement qu'elle avait les qualités, les vertus de la vraie femme, qui ont pris racine et qui se sont sublimés dans la foi, dans une vie intérieure ardente et profonde. Murdieuville a eu ses dévotions particulières, hein, au Sacré-Cœur, à la Sainte-Croix, à la Vierge, à Saint-Joseph, aux anges, à Saint-Charles, mais on sait qu'elle avait pour dévotion capitale et centrale la dévotion au Père éternel, qui est au fond au cœur de notre liturgie. Quand vous allez à la messe, c'est un acte de dévotion, entre guillemets, disons, ou de culte au Père éternel. Toutes nos prières s'adressent au Père éternel. Elle était au cœur de la foi catholique. Cette dévotion qui dérivait en droite ligne du Notre Père, de cette révélation du Christ, qui, ô Dieu, peut-être trop froid et trop lointain, a substitué le Dieu d'amour, pour qui nous sommes des enfants aimés. Oui, nous sommes des enfants aimés, presque à la folie par ce Dieu. On le voit dans la parabole l'enfant prodigue. Et par privilège tout spécial, cette grande âme, Sainte Marguerite Diouville, a reçu ce que l'apôtre appelle l'esprit de l'adoption des enfants par lequel nous crions « Abba, Pater ». Elle l'avait reçu, cet esprit. Et nous l'avons reçu, c'est à nous de crier aussi « Ô Père, Père !» avec amour et tendresse, avec foi. Et toutes les inspirations, tous les déploiements de son activité religieuse à Murdieville ont trouvé là leur nourriture, et de cette dévotion filiale au Père procède à n'en pas douter sa confiance, si absolue, presque téméraire en la providence de Dieu, dans le cœur du Père qui est si bon, confiance qui l'a fait se jeter perdument dans les entreprises les plus hasardeuses, hein? Tellement à la foi que la providence du Père ne serait manquée à ceux qui travaillent pour que son nom soit sanctifié, que son règne arrive. Confiance qui va lui inspirer comme tout naturellement ce geste héroïque et pathétique du 18 mai 1765, alors que devant l'impitoyable incendie qui achève d'anéantir le fruit de tant de travaux et de tant de peines. Alors dans une exaltation qui n'appartient qu'au saint, Sainte Marguerite Diouville s'écrie « Mes enfants, nous allons réciter le Te Deum à genoux pour remercier Dieu de la croix qu'il vient de nous envoyer. » Nous envoyer, moi j'en suis pas sûr, c'est pas Dieu qui envoie ses croix, ce sont des accidents. Mais devant ces accidents, il faut faire comme elle a fait, chanter le Te Deum. À toi Dieu, Te Deum laudamus, nous te louons Seigneur. Vous allez voir le tableau à la cathédrale, à droite, il y a un beau tableau, plutôt à gauche, un beau tableau qui représente ça, de Georges Delphos. La pauvreté qu'il l'a aimée, qu'il l'a pratiquée plus qu'elle, avec une passion, une inflexibilité plus franciscaine, qui? Est-ce qu'elle n'a pas voulu qu'à son exemple, ses sœurs grises, ses sœurs de la charité, soient aussi pauvres que les pauvres de l'hôpital? Mon Dieu! Que de générosité! Il y a des grands mots qui ont été prononcés sur la tombe de cette femme, une des personnes les plus marquantes dans l'histoire de l'établissement de notre pays. La femme forte du Canada. Dans l'Amérique, personne jusqu'à Madame Dieuville n'a réuni si universellement, ni retracé avec autant de vérité les traits divers sous lesquels la Bible s'est plu à nous peindre le caractère de la femme forte, etc., etc. Il y a une croix gigantesque qui s'allume la nuit sur le Mont-Royal. Vous la connaissez. Elle est le symbole, la synthèse lumineuse de tous les élans spirituels qui, depuis Monsieur de Maisonneuve, depuis Jeanne Mance, depuis Sainte-Marguerite Bourgeois, depuis Jeanne Lebert, ont animé, tiré par en haut l'histoire de Montréal. Eh bien, dans le resplendissement de cette croix, de la montagne, quand vous la voyez, voyez qu'il y a beaucoup aussi de la croix de feu qui, un soir de 1771, le 23 décembre, s'est dressée dans le ciel quand elle est morte, cette sainte, comme un sceau suprême sur une grande œuvre et sur la vie d'une grande ouvrière, Marguerite Dufrault de La Jameraie, épouse François Dieuville, mère de deux prêtres, sainte Marguerite Dieuville. Oui, sainte Marguerite Dieuville, vous avez passé votre vie à secourir les gens mal pris. Et je vous sais puissante sur le cœur de Dieu le Père, dont vous avez été sur terre la messagère de tendresse. Venez à notre aide, à Radio-Ville-Marie, dans la situation où nous nous trouvons. Nous sommes pauvres. Je compte sur vous pour obtenir cette faveur que je sollicite avec confiance. Mère à la charité universelle, entraînez-moi et entraînez-nous tous à Radio-Ville-Marie dans votre sillage de foi, d'amour et de service. Amen.